Le journal est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les États-Unis avaient œuvré pour, Israël et le Soudan normalisent leurs relations. Cette décision annoncée hier soir a provoqué de nombreuses réactions. Nous irons à Jérusalem dès le début de ce journal.
Le ministère français des Affaires étrangères salue l'accord de cessez-le-feu permanent conclu en Libye. Mais qu'en pensent les civils sur place? Ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Témoignage à suivre.
La barre symbolique des 10 000 morts depuis le début de l'épidémie a été franchie en Allemagne. Le Covid-19 provoque l'annulation de nombreux événements et notamment des marchés de Noël, pourtant très attendue explication de notre correspondant à Berlin.
En France, 298 malades du coronavirus sont morts ces dernières 24 heures. Le président Emmanuel Macron appelle à faire un effort alors que le couvre-feu vient de s'étendre.
Vous entendrez aussi le chef du pôle des urgences au CHU de Lille. Il décrit une situation particulièrement préoccupante. À l'Assemblée nationale, l'opposition, elle, s'inquiète de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire examiné ce week-end.
Enfin, direction le musée Soulage à Rodez où le célèbre chat de Philippe Guéluque explique aux visiteurs les œuvres du célèbre, lui aussi, Pierre Soulages.
Et à suivre dans la deuxième partie des matins du samedi, Caroline.
Un historien qui vient d'écrire une monumentale histoire de la fatigue et comme nous éprouvons tous, ce me semble, une immense fatigue en cette fin d'année, et bien nous avons eu envie d'inviter Georges Vigarello qui sera dans notre studio dans un petit quart d'heure.
Voilà une énorme victoire pour la paix dans le monde, selon les mots de Donald Trump. Le président des États-Unis s'est vanté hier de l'accord conclu entre Israël et le Soudan. Ces derniers ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques. Jusqu'au mois dernier, les seuls États arabes à reconnaître Israël étaient l'Égypte et la Jordanie. Une décision importante après des années d'hostilité. Pour y parvenir, Washington a cessé de faire pression, et cela à l'approche de l'élection présidentielle américaine le 3 novembre prochain. Alors que l'actuel locataire de la Maison-Blanche semble à la traîne si l'on en croit les sondages. À Jérusalem, les explications de notre correspondante Alice Froussard.
Avant le Soudan, il y a eu les Émirats Arabes Unis et puis Bahreïn qui avaient accepté de normaliser leurs relations avec Israël. Cette fois, c'est une nouvelle étape majeure vers la paix au Moyen-Orient, tweet un porte-parole de la Maison-Blanche. Nous agrandissons le cercle de la paix si rapidement grâce au leadership américain, a dit de son côté le Premier ministre israélien. Puis, dans une déclaration séparée, Benjamin Netanyahou salue un formidable revirement de la part du Soudan et annonce que des délégations se réuniront bientôt pour discuter de la future coopération, commerce et agriculture principalement. Pour les Palestiniens, cette normalisation est une trahison. L'autorité palestinienne a condamné immédiatement cet accord et le porte-parole du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza parle d'un péché politique qui nuit au peuple palestinien et à leur juste cause, nuit aussi à l'intérêt national du Soudan et ne bénéficie qu'à Netanyahou, je cite. En tout cas, cette normalisation des relations entre Israël et le Soudan est particulièrement symbolique au Moyen-Orient, car après la guerre des six jours en 67, la majeure partie des dirigeants arabes s'était réunie au Soudan pour adopter la résolution de Khartoum, connu pour ses trois noms. Non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël et non aux négociations avec Israël.
De son côté, Donald Trump a retiré le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme. Le Soudan est figuré depuis 1993. Autre accord important, jugé historique par l'ONU, cette fois un cessez-le-feu permanent en Libye a été conclu hier, accord salué par la France, car il montre l'aspiration de tous les Libyens à la souveraineté face aux ingérences extérieures selon Paris. Il prend effet de façon immédiate. Les mercenaires et combattants étrangers ont trois mois pour quitter le pays. La Libye est déchirée entre d'un côté le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et les autorités alliées du maréchal Haftar soutenues par une partie du Parlement. Mais sur place, les Libyens n'en attendent pas grand-chose parce qu'aucune des grandes puissances internationales impliquées sur le terrain n'a signé ce cessez-le-feu. Maureen Mercier.
Cet accord n'est qu'un bout de papier. Les puissances internationales qui se font la guerre sur nos terres n'étaient pas impliquées, résume Ahmed. Il pense à la Turquie, aux Émirats, à la Russie, à la France ou encore à l'Égypte qui agissent en Libye. Avis partagé par Mohamed. Épuisé, découragé, il raconte combien la situation à Tripoli s'est encore dégradée depuis la fin de l'offensive du maréchal Haftar sur la capitale.
Les gens n'arrivent pas même de retirer l'argent parce qu'il n'y a pas de liquidité. Pas de travail, pas de médicaments. La situation de la sécurité devient plus mauvaise. Les habitants, surtout de Tripoli, sont dans l'enfer.
pour contrer l'offensive du maréchal Haftar qui cherchait à s'emparer de la capitale et du pouvoir, les milices à Tripoli s'étaient unies contre lui. Depuis qu'elles sont parvenues à le faire reculer, les querelles à coups de Kalachnikov ont repris entre les milices.
Les gens ne supportent plus la situation.
Conséquence ?
Il y a des centaines de Libyens qui partent par jour, je vous dis ça par jour, vers l'Europe. Les familles, les femmes, les enfants, même les personnes âgées. Et chaque jour, il y a des morts sur la plage.
Les civils à Tripoli ne rêvent que de paix, une paix impossible, disent-ils, à cause des ingérences étrangères. Comme pour leur donner raison, dans la foulée de l'annonce du cessez-le-feu, le président turc Erdogan a réagi. « Pour moi, cet accord manque de crédibilité », a-t-il déclaré. Signe que l'homme qui a envoyé des milliers de mercenaires sur les terres libyennes ne se sent aucunement concerné.
L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une progression exponentielle des cas de Covid-19 dans l'hémisphère nord. La course au vaccin, elle, continue. Deux essais vont reprendre aux États-Unis. L'un développé par le groupe AstraZeneca, l'autre par Johnson & Johnson. Le rival de Donald Trump, le candidat démocrate Joe Biden, a promis que le vaccin, une fois trouvé, serait gratuit pour tout le monde s'il est élu président. Des affrontements ont éclaté hier entre des centaines de manifestants opposés au couvre-feu et des policiers à Naples. Fumigènes, poubelles incendiées, jets de projectiles sur les forces de l'ordre anti-émeutes déployées dans le centre-ville. En Campanie, ce couvre-feu mis en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 dure de 23h à 5h du matin. En Allemagne, ce coronavirus a fait plus de 10 000 morts depuis le début de l'épidémie. La barre vient d'être franchie selon un institut de veille sanitaire. Le pays, frappé par la deuxième vague, prend des mesures pour limiter cette propagation. Les marchés de Noël sont en partie annulés, en tout cas ils n'auront pas la même saveur. C'est pourtant une grande tradition outre-Rhin qui promet des retombées économiques, Ludovic Piétenu.
900 000 visiteurs étaient encore attendus cette année sur la grande place de Gendarmenmarkt au cœur de Berlin. Mais le risque sanitaire est trop grand. La tenue du marché de Noël n'est plus justifiable, a déclaré selon ses mots le cœur lourd, son organisateur Helmut Rous, estimant les pertes entre 22 et 25 millions d'euros. Cela devait être la bouée de sauvetage pour 120 artisans après une année difficile, ce ne sera pas le cas. Qu'en sera-t-il des quelques 3 000 autres marchés de Noël du pays? Les annulations se suivent déjà en cascade. Francfort et ses 3 millions de visiteurs chaque année, Constance, Düsseldorf, chacun des 16 lenders du pays annule les uns après les autres ces festivités. Qui peut prendre un tel risque au moment où le pays se bat contre des chiffres de nouvelles infections jamais atteints depuis le début de la pandémie? Le vin chaud se boira sans masque, mais à la maison.
Ludovic Piétenu à Berlin pour France Culture. En France, le marché de Noël de Strasbourg est aussi annulé. On l'a appris jeudi. Les 300 chalets sont supprimés. Il restera des animations de rue. Un marché avec d'habitude des retombées évaluées à 250 millions d'euros. France Culture 8h08, suite du journal de Margot Delpierre avec un point sur l'épidémie en France. Le cap symbolique du million de cas de Covid a été franchi hier soir.
Un peu plus de 42 000 cas ont été recensés hier. 298 malades en sont morts ces dernières 24 heures. Des chiffres communiqués un peu avant l'entrée en vigueur à minuit du couvre-feu dans un total de 54 départements. À partir de ce soir, il s'appliquera entre 21h et 6h, comme l'avait expliqué le chef du gouvernement Jean Castex. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a visité un hôpital du Val d'Oise et il est revenu sur ses annonces.
Les prochaines semaines seront des semaines où on doit tous faire un effort pour nos soignants et pour freiner le virus. Mais avec la perspective, si on fait cet effort collectif suffisamment efficacement, de continuer à vivre avec le virus mais en relâchant ses contraintes, parce qu'on fera mieux le tester, alerter, protéger. Et on devra alterner entre ces stratégies à chaque étape en nous améliorant et en étant plus efficace, en réduisant la pression sociale, vraisemblablement jusqu'à l'été prochain.
Il faudra donc vivre avec le Covid au mieux jusqu'à l'été 2021. Cela risque d'être long. La situation est déjà tendue dans le Nord. À Roubaix et Tourcoing, on dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants. Les hôpitaux de la métropole lilloise se réorganisent. Patrick Goldstein est le chef du pôle des urgences au CHU de Lille.
Nous sommes donc en train de restructurer nos établissements pour libérer des lits pour accueillir les patients Covid. Nous augmentons notre capacité en réanimation. Nous sommes amenés également à repositionner du personnel, ce qui sous-entend une diminution de l'activité opératoire, ce qu'on appelle une reprogrammation. L'ensemble des établissements de notre métropole lilloise font cela aujourd'hui. Il y a bien entendu une tension toute particulière sur l'hôpital de Roubaix, mais aussi, vous savez, sur l'hôpital de Tourcoing, Roubaix, Tourcoing, Tourcoing, Roubaix, c'est quasi la même ville. Et ces hôpitaux sont en énorme tension, avec des situations qui devenaient quasiment insoutenables pour les soignants. Donc on a commencé à transférer les patients de Roubaix vers le CHU de Lille. Nous avons arrivé dans notre service des familles entières. Ça commence le lundi avec le petit-fils, mardi, mercredi, on aura les parents, et à partir de jeudi, vendredi, on aura des grands-parents. Donc ces contaminations familiales, c'est quelque chose qu'on doit absolument avoir à l'esprit, parce que vous l'avez bien compris, ça ne sera pas obligatoirement résolu par le couvre-feu.
Patrick Goldstein, chef du pôle des urgences du CHU de Lille, des propos recueillis par Thomas Giraudot. Pour lutter aussi contre l'épidémie, le gouvernement veut s'appuyer sur l'état d'urgence sanitaire. Il a été rétabli par l'exécutif la semaine dernière et permet de prendre des décisions par ordonnance, donc sans le vote des assemblées, comme le port du masque obligatoire, le confinement, local ou national, des restrictions de rassemblement. Mais pas seulement, ce régime d'exception peut aussi influer sur les aides aux entreprises, le chômage partiel ou les démarches administratives. De quoi provoquer la colère de l'opposition, Sophie Delpont.
À l'Assemblée nationale, cette fois, contrairement au printemps dernier, la contestation de l'état d'urgence sanitaire atteint jusqu'au rang de la droite. C'est le cas de Philippe Gosselin, député LR de la Manche, membre de la commission d'enquête sur la crise sanitaire.
L'état d'urgence sanitaire, c'est une espèce d'arme atomique. Nous disons, nous démontrons que l'armement conventionnel juridique suffit largement. Et donc, on ne veut pas donner une sorte de carte blanche au gouvernement, sauf s'il nous dit que, en réalité, ce qu'il prépare, ce n'est pas des couvre-feux ici et là, mais un reconfinement généralisé. Et là, effectivement, les textes actuels ne peuvent pas faire. Il faut bien un état d'urgence sanitaire. Donc, il faut vraiment que tout soit sur la table.
Donc vous pourriez voter contre l'état d'urgence cette fois-ci?
Oui, je pense que la question est clairement posée. Pas pour empêcher le gouvernement d'agir. Le gouvernement doit agir. On a une situation qui est très sérieuse. Mais parce que les fondements de l'intervention du gouvernement ne nous paraissent pas suffisamment étayés.
Pour François Ruffin, député La France Insoumise, cette manière de gouverner très verticale pourrait être aussi contre-productive pour lutter contre la propagation du virus.
Au contraire, des mesures aussi lourdes, elles devraient être discutées devant l'Assemblée, devant le Sénat, avec la société civile, avec les syndicats, pour qu'il y ait une large acceptation.
Le projet de loi prévoit également qu'un régime transitoire soit instauré jusqu'au 1er avril 2021. Il permettrait à l'exécutif de prendre des mesures de restriction de circulation, de rassemblement ou encore d'ouverture des établissements, au moins jusqu'au 1er avril, en fonction de la situation de l'épidémie, sans passer par le Parlement.
Conséquence de la crise sanitaire, la précarité grandit. Jean Castex doit détailler en fin de matinée des mesures pour lutter contre la pauvreté. Le chef du gouvernement devrait se concentrer sur le soutien à l'insertion par l'emploi et l'accès au logement. L'enveloppe consacrée à ces mesures s'élève à plus de 700 millions d'euros. 4 ans après l'assassinat du père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le parquet national antiterroriste demande un procès aux assises pour au moins 3 personnes, 3 hommes dans l'entourage des djihadistes qui ont commis cet ignoble attentat terroriste, comme l'avait qualifié à l'époque François Hollande. Un 4e est présumé mort en Irak. C'était un petit moment solennel hier à l'Assemblée nationale pour Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Les députés ont voté en première lecture le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours à compter du 1er juillet. C'est une mesure phare du projet de budget de la Sécurité sociale 2021 et qui sera sous mis dans son ensemble au vote mardi. Avoir un chat pour guide au musée, c'est maintenant possible à Rodez, dans l'Aveyron. Un chat, mais pas n'importe lequel. Celui-là est populaire, il est rond, en costume cravate. Bien souvent, il pense et même philosophe. C'est le chat de Philippe Geluck. Le dessinateur a eu carte blanche pour explorer et surtout expliquer les peintures de Pierre Soulages au grand public. Il le raconte à Stéphane Iglesis.
Une carte blanche à Geluck pour présenter notamment les œuvres noires ou outres noires de Pierre Soulages, c'est déjà assez plaisant. Le chat dans un dessin demande à Pierre Soulages comment il aime son café et le maître répond « au lait » et non pas « noir » devant un chat surpris. Philippe Geluck, l'auteur du chat, est surtout un admirateur de Pierre Soulages depuis longtemps.
On était, ma femme et moi, et sa femme et lui, donc on était à 4, mais on était à 7, et on est allé dans son atelier. Et j'ai vu ce tableau qu'il venait de peindre le jour même où il nous a dit « ne vous approchez pas, il n'est pas encore sec ». Je me suis dit, mais je suis dans l'atelier de Soulages. On vit un moment de rêve.
Gluck s'est aussi amusé à pasticher dans ses dessins des toiles d'outre-noir de Soulages, ce qu'il résume d'une formule, c'est peut-être un faux Soulages, n'empêche qu'il est accroché dans un vrai Gluck. Benoît Decron, conservateur du musée Soulages.
Le guide conférencier, je considère que dans un musée, le guide, c'est le seul maître à bord après Dieu. C'est comme le chauffeur de bus, voyez. Et donc, si les gens arrivent à l'œuvre de Soulages, parce qu'à première vue, c'est un peu autoritaire, c'est un peu monumental, ça peut faire un peu peur. S'ils arrivent grâce au dessin de Gueluc, je trouve ça très bien.
Le chat visite le musée Soulages, c'est jusqu'au printemps prochain à Rodez.
En bref, le temps aujourd'hui est maussade sur les deux tiers nord de la France, ensoleillé dans le sud. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Lille, jusqu'à 20 à Marseille, Caroline.